Et chères auditrices, nous continuons cette deuxième série concernant l'importance de la rédemption. Nous arrivons à l'étude numéro 23 et le titre sera « Quel est le but de ce chemin ?» Et je vous demanderai de noter Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 8. Chers amis, nous avons parlé du chemin dans les traces de l'agneau. Avançons encore d'un pas et parlons du but de ce chemin. Seul celui qui a un but en vue se hâte et lutte joyeusement pour vaincre les difficultés de la route. Le but de ce chemin est la réunion visible avec l'agneau. Un dicton bien connu dit « La réunion en un seul corps est la fin des voies de Dieu ». Et dans Éphésiens, chapitre 3, versets 31 à 32, vous pouvez lire « Les deux deviendront une seule chair ». Ce ministère, mais plutôt on peut dire ce mystère, car c'est un mystère, est vraiment grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Les deux deviendront une seule chair, c'est une réalité. Par conséquent, être une seule chair avec lui est encore plus qu'être un seul esprit avec lui. C'est à réfléchir parce qu'on pourrait ne pas le croire. Moi, il m'a semblé pendant longtemps qu'être uni dans l'esprit, c'était le summum. Eh bien, il faut être uni par l'esprit et également être une seule chair avec lui, et encore plus qu'être un seul esprit avec lui. Donc, deux jeunes gens qui se fiancent. Ils se fiancent parce qu'ils sont l'un avec l'autre animés d'un même esprit, tout d'abord, mais les deux attendent le jour où ils vivront côte à côte comme mari et femme. Il en est de même pour Christ et pour l'Église. Celle-ci désire ardemment le moment où, dans un corps glorifié, elle se tiendra à son côté comme son épouse. Les Saintes Écritures donnent deux noms différents, vraiment différents aux croyants, et cela lorsqu'il s'agit de leur destination éternelle. Voyez-vous, l'un est un royaume des sacrificateurs, selon Apocalypse, chapitre 1, verset 6, et l'autre, épouse de l'agneau. Je répète, l'un est un royaume des sacrificateurs, et l'autre, épouse de l'agneau. Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Comprenons donc que nous avons affaire à une personne et non pas à des choses, c'est pas pareil, et que nous n'osons pas nous arrêter à nos expériences, car il ne s'agit pas de jouissance, mais il s'agit de quelque chose de bien plus élevé. Dernièrement, quelqu'un me disait, il n'y a qu'une année que j'ai réalisé que nous avons affaire à une personne. La conversion est une expérience, le pardon des péchés une chose, la paix avec Dieu une joie. Je répète, la conversion Ça, c'est une expérience. Le pardon des péchés, ça, c'est une chose. Et la paix avec Dieu, ça devrait être la joie ultime. Mais toutes ces choses que nous devons avoir expérimentées et qu'il faut posséder ne représentent pas le but final, mais uniquement le moyen, oui, le moyen, pour atteindre ce but. Le but est l'union visible avec le Fils de Dieu. Je répète, le but est donc l'union visible avec le Fils de Dieu. Il ne nous est donc pas permis de nous arrêter là. De nous arrêter là si nous voulons éviter d'être des vierges folles. Attention. De tout cela, il ne résulte rien de fondamental pour le royaume de Dieu, et c'est pourtant de l'essentiel qu'il s'agit en fin de compte. Oui, nous sommes délivrés pour collaborer à la délivrance. Je répète, nous sommes délivrés pour collaborer à la délivrance. Et cette délivrance n'embrasse pas seulement le monde perdu, mais également la création qui se trouve dans les maux de l'enfantement. Lorsque l'apôtre Paul parle d'annoncer l'Évangile, il trace un cercle autour de toute l'humanité, mais lorsqu'il parle de délivrance, il élargit son cercle et englobe aussi la création qui soupire. Romains chapitre 8, verset 19 à 23. Ces soupirs ne sont pas destinés aux oreilles de Dieu, mais aux nôtres. Vous comprenez? C'est nous qui devons réaliser cela. De plus, la création n'attend pas la révélation du Fils de Dieu, tout simplement, mais la création attend la révélation des fils de Dieu que nous sommes, que vous êtes. Romains chapitre 8, verset 19. Par conséquent, sa libération s'inscrit à notre charge et nous est imputé comme dette. Ceci nous permet de jeter un profond regard dans le domaine de notre devoir, ce qui nous dévoilera que d'entrer dans le ciel pour s'y reposer, ça, ce n'est pas le but ultime. Celui qui s'arrête là, il y en a beaucoup, n'a ni compris sa vocation, ni saisi de quoi il s'agit dans le temps actuel et dans celui qui est tout proche, donc à celui à venir. Nous sommes donc membres de la tête nommée Rédempteur, de qui tout dans le ciel, sur la terre et sous la terre attend une complète rédemption, selon Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 5. Nous nous arrêtons là, là où Christ, notre tête, s'arrêtera. Il parachèvera son œuvre, et cela au moment où il aura tout remis à son Père. Et cela afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 28. Donc, jusque-là, notre bonheur consiste à servir, à servir. Apocalypse chapitre 22, verset 20, donc chapitre 22, verset 2, excusez-moi. Donc, je répète, jusque-là, notre bonheur consiste à servir, et cela afin qu'en communion avec le Fils, nous mettions un monde perdu, qui est perdu comme vous le savez, pour le mettre aux pieds du Père, et ainsi le règne du Père pourra arriver, arrivera, comme Jésus-Christ nous enseigne à le demander dans l'oraison dominicale. En effet, le but ultime et parfait ne réside pas seulement dans le règne du Fils, mais dans le règne du Père, car il s'agit de la maison paternelle. Le royaume de Dieu comporte donc deux faces. L'une, elle est terrestre, et l'autre, céleste. La face terrestre correspond au temps des dispensations de l'Esprit Saint dans lequel nous vivons actuellement et au règne du Fils qui est tout près à la porte. La face céleste correspond au règne du Père où Dieu est Père et tous sont fils et filles. Oui, Dieu n'abandonne pas la partie, mais recommande toujours à nouveau et en dépit de tout recul, recul souvent apparent, avance pourtant pas à pas, comme nous le démontre toute l'histoire du royaume de Dieu. Jésus, il débuta avec 12 hommes et il leur donna son Saint-Esprit. Selon Actes, chapitre 15, verset 14, ils avaient pour tâche d'assembler parmi les nations un peuple qui porta son nom. Et lorsque le nombre des païens sera entré, alors là, le Seigneur reviendra. Selon les Saintes Écritures, la tâche actuelle du Saint-Esprit n'est pas de convertir le monde entier, mais d'appeler un peuple hors du monde. Je répète, selon les Saintes Écritures, la tâche actuelle du Saint-Esprit n'est pas de vouloir simplement convertir le monde entier, mais c'est surtout d'appeler un peuple hors du monde, tous ceux qui auront accepté la main tendue de Jésus-Christ, tous ceux qui auront compris qu'ils doivent être sauvés. Dans Actes chapitre 15, nous est relatée la première conférence des serviteurs de Christ, durant laquelle ils au pluriel, établirent les directives de leur travail et fixèrent le but à atteindre. Celui-ci a été clairement déterminé et fixé. Cela nous concerne aussi. Et comment ? C'est pourquoi tout travail qui ne suit pas dans cette directive ne peut s'attendre à l'appui du Saint-Esprit. Voyez-vous, il ne suffit pas de conduire les hommes simplement à Christ, ce qui est déjà beaucoup, hein? Parce que ça permet la conversion, c'est donc important. Mais il y a plus. J'ai dit, c'est important de les conduire, les hommes. Ah oui, de les conduire à Christ. Pas sous-estimer cela. Mais nous devons aussi les diriger à la rencontre directe de Christ. Donc il y a un pas de plus à faire. Notre travail sera alors accompli selon les directives de l'Esprit Saint et profitable au royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'il est jaloux d'eux, il est jaloux d'eux d'une jalousie de Dieu. C'est pas pareil que nos jalousies à nous, mesquines et stupides. Et cela afin de présenter à Christ une vierge pure. Aux Philippiens, il dit, l'apôtre Paul, que s'il n'atteint pas ce but-là, il aura couru et travaillé absolument en vain. Selon Philippiens chapitre 2, versets 15 et 16. Ce jour-là, à combien de nos travaux appliquera-t-on, dans le sens où l'entend l'apôtre Paul, la sentence est inutile? Oui, ça paraît bizarre, mais je dis ce jour-là, combien de nos travaux, parfois pas toujours utiles, il faut bien le comprendre, il faut donc toujours prier beaucoup, demander d'être guidé, et je parle aussi pour moi, parce que parfois, je fais aussi des choses selon ce que je pense être juste, et ce que je pense être juste, et parfois, comme résultat, inutile. Nombreux travaux seront alors manifestés comme une grande méprise. Nous comprenons dès lors aisément pourquoi tous les efforts entrepris actuellement produisent de si maigres résultats. Il manque le sceau de l'Esprit Saint. De plus, cet esprit est attristé. Pourquoi ? Parce que on n'accomplit pas la tâche selon ses directives. Et malgré notre désir d'œuvrer pour Dieu, ce que je viens de vous dire me concernant, cela m'est arrivé. Car considérez dans son contexte le verset qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit » se réfère au jour de la rédemption, c'est-à-dire au jour du retour du Seigneur. Et chaque membre du corps de Christ qui s'arrête dans sa marche et ne se laisse pas conduire à la perfection, attriste tout simplement, ou si vous voulez, simplement, plutôt catastrophiquement, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est le constructeur de tout le corps de Christ. Le corps entier va donc en souffrir. Si je prêche aujourd'hui, je pêche non seulement contre Dieu et moi-même, mais également contre tout le corps de Christ, puisque j'en suis membre. Je dis si je commet un péché aujourd'hui. En allemand, c'est beaucoup plus précis et on ne peut pas se méprendre entre faire la pêche et pécher. Donc, c'est pour ça, je le répète, peut-être le tourner autrement. Si je commets un péché aujourd'hui, eh bien, je pêche non seulement contre Dieu et moi-même, mais également contre tout le corps de Christ, puisque j'en suis membre. Voyez-vous ? Tel est donc le sens plus profond de la parole qui dit « quand un membre souffre, et vous connaissez la suite, tous les membres souffrent avec lui. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. Nous ne devons pas nous arrêter à la certitude du salut, celle-ci fait partie des débuts de la vie chrétienne selon Hébreux chapitre 6, mais non pas de l'état adulte. Quelque chose de plus profond que la certitude du salut, c'est la certitude de notre union avec Christ. Je répète, quelque chose de plus profond que la certitude du salut, ne nous méprenons pas, cela est très important, mais encore plus important, c'est la certitude de notre union, d'être unis avec Christ. Ça vaut la peine d'approfondir ce que je viens de répéter. Nous sommes des appelés et des élus, prédestinés dès avant la fondation du monde pour le Fils. Être un élu, ou simplement un trouvé, quelle grande différence! Une trouvaille implique toujours le sens du hasard, plus ou moins. Mais dans l'élection, je discerne la grâce éternelle pour moi. Les saintes Écritures parlent d'appeler et d'élus. Et d'élus demeureront toujours fondés donc sur les saintes Écritures pour cela. Je répète, saintes Écritures parlent des appelés et des élus. À la conversion, l'homme commence sa marche avec Dieu, mais Dieu s'est occupé de l'homme bien avant. Et oui, ça paraît incompréhensible à prime abord, mais c'est vrai, il s'est occupé de nous bien avant la création. Nous avons été élus par Dieu et nous avons été destinés au Fils, et cela bien avant la fondation du monde, nous dit l'Écriture sainte, selon Éphésiens chapitre 1. Et dans l'Évangile de Jean chapitre 6, Jésus dit tout ce que le Père me donne viendra à moi. Donc, son divin appel me prouve que je suis une de ces âmes bienheureuses que le Père a données au Fils. Après avoir reconnu notre union avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous faisons trois choses. Premièrement, nous remercions Dieu, notre Père, pour la première fois du tréfond de notre âme d'être né, ce que beaucoup d'entre nous n'ont peut-être pas fait jusqu'à ce jour. C'est vrai, et parce qu'on ne leur a pas expliqué, ils sont donc pas fautifs. C'est le moment où l'amour de Dieu se répand comme un fleuve dans notre cœur. Nous recevons quelque chose de la dignité qui nous fait monter sur les hauteurs du pays et au-dessus de ses plaisirs et de ses souffrances également. Ésaïe 58, verset 14. Deuxièmement, nous n'abaissons plus la parole de Dieu au niveau de nos expériences personnelles, ce que plusieurs ont fait tellement longtemps. Nous laissons aux Saintes Écritures toute leur signification et nous poursuivons, comme le dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, non, mais je cours pour tâcher de le saisir. Nous apprenons à connaître les Saintes Écritures non seulement en relation avec nos sentiments propres, mais également en accord avec les sentiments, surtout avec les sentiments et les besoins de Dieu. Et troisièmement, nous traversons ce monde comme des voilés, c'est-à-dire comme séparés et détachés. Le monde et ses plaisirs ne nous attirent plus, et ses souffrances ne nous abattent plus. Voyez-vous, lorsque Rebecca a vu Isaac, son fiancé, elle est descendue prestement de son chameau et elle s'est voilée le visage, car dès ce moment-là, elle n'a pas voulu ni plaire, ni être attrayante pour personne d'autre que pour lui seul. Il en va de même pour nous, lorsque notre union avec le Seigneur est révélée et connue. Chers frères et sœurs, bientôt, celui qui doit venir viendra, ça c'est un fait, et il ne tardera pas. Avec tout ce qui arrive maintenant autour de nous dans le monde, soyez-en certains, on s'approche. Nous avons seulement chanté « Le Seigneur fait irruption à minuit », mais maintenant, tout est encore tranquille, d'accord. Ces paroles étaient vraies lorsque Zinzendorf a écrit ce fameux chant, et je crois qu'il y a plus de 100 ans. Dieu soit loué, car aujourd'hui, tout n'est plus tellement tranquille. Chaque jour, il y a des choses terribles, absolument pas pour être très tranquille. Lors même que le peuple de Dieu en général manifeste peu d'intérêt pour la venue du Seigneur, néanmoins, une troupe s'est réveillée et cette troupe attend le Fils Jésus-Christ venant des cieux, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Le retour du Fils de Dieu est le prochain grand événement attendu par tous les enfants de Dieu, non pas une effusion du Saint-Esprit, non. Nous ne trouvons dans le Nouveau Testament, de la part des apôtres, aucune exhortation de attendre à la fin de cette dispensation une effusion du Saint-Esprit. Les apôtres préparèrent leur assemblée, non seulement à la venue du Saint-Esprit, mais surtout à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui a poussé beaucoup de chers enfants de Dieu à attendre une effusion de l'Esprit Saint est la pauvreté spirituelle qui règne parmi le peuple de Dieu en général et la conviction que l'état actuel du peuple de Dieu ne lui permettrait pas de rester debout dans les temps difficiles qui arrivent et qui sont à la porte. Ils pensent qu'une révélation spéciale de Dieu sera nécessaire. C'est vrai, bien sûr, mais cette révélation, comme vous dites, spéciale de Dieu, ne sera pas une effusion du Saint-Esprit comme on pense, mais ce sera, croyez-le ou pas, l'enlèvement de tous ceux, catholiques, protestants, baptistes, méthodistes, évangéliques et plusieurs autres istes, c'est l'enlèvement de tous ceux qui se sont laissés émonder, qui sont des délivrés et qui sont restés dans le premier amour. Oui, c'est ça. Ceux-là seulement seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur. Une frayeur saisira tous ceux qui resteront en arrière. Croyez-moi, ce sera terrible. Dès ce moment-là, l'Apocalypse sera pour plusieurs un livre ouvert, c'est-à-dire une révélation, et plus d'un, sera résolu à demeurer fidèle pendant le peu de temps qui lui restera, et cela jusqu'au sacrifice de sa vie, car il faudra sacrifier sa propre vie Apocalypse chapitre 14. Les apôtres ne parlent pas de la venue du Saint-Esprit, mais de recevoir le Saint-Esprit. Jésus reçut le Saint-Esprit lorsqu'il descendit dans le Jourdain, c'est-à-dire lorsqu'il s'identifia au péché des hommes. Oui, à tout le péché des hommes, comme s'il était lui, pécheur lui-même. Il reçut le Saint-Esprit sous forme d'une colombe. L'agneau était si doux qu'il se laissa conduire par une colombe. Parcourons un peu ce même chemin pour descendre dans le Jourdain et manifestons la même douceur envers l'Esprit Saint. Et rien n'empêchera qu'une bénédiction spirituelle plus profonde nous inonde. Dans le temps actuel, il n'est plus question d'effusion, mais de mûrissement. Il y en a beaucoup qui penseront maintenant que c'est pas vrai. Mais vous pouvez sonder les Saintes Écritures et vous verrez que dans le temps actuel, il n'est plus tellement question d'effusion, car nous arrivons à la fin de la dispensation de la grâce. Il est donc plutôt question de mûrissement. Plus près est la moisson, plus grande est la chaleur, et moins abondantes les pluies. N'attendez donc pas des bénédictions spéciales, car l'apôtre Pierre, il a dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le retour du Fils de Dieu est en réalité l'espérance des croyants, comme nous le lisons dans Actes chapitre 1 verset 11, ajoutez Tite chapitre 2 verset 13, ajoutez encore 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7 et Philippiens chapitre 3 verset 20 et dans bien d'autres versets. Les saints des premiers jours avaient déjà cette même espérance. L'assemblée remplie du premier amour attendait son Seigneur. Nous sommes souvent exhortés par notre Seigneur lui-même et par ses apôtres à attendre et à hâter l'avènement du jour de Dieu. Le retour de Christ ne fait pas l'objet d'un thème de quelques spécialistes dans ce domaine-là, mais c'est le grand sujet des Saintes Écritures. Il doit aussi devenir notre principal sujet. Nous sommes tous profondément pénétrés du fait de la nécessité d'un réveil dans nos églises. Comment cela peut-il se faire ? Demandai-je un jour à un célèbre missionnaire. Eh bien, c'est lorsque l'espérance du retour de Jésus-Christ, lorsque cette espérance devient vivante dans les églises. Ça a été sa réponse. Faut-il le répéter ? Comment cela peut-il se faire ? Ai-je demandé à ce célèbre missionnaire. Voici sa réponse. Comparé aux Saintes Écritures, voyez-vous, c'est la meilleure réponse. C'est lorsque l'espérance du retour de Jésus-Christ peut et va devenir absolument une réalité vivante dans toutes les églises. Ça, c'était sa réponse. Et comparé donc aux Saintes Écritures, c'est bien sûr et on peut le répéter, la meilleure réponse. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, ayons pour casque l'espérance du salut. Si je répète parfois une phrase, ce n'est pas parce que je trouve que nous sommes tous aussi peu éduqués que moi. Il y en a le 80% qui ont fait 10 fois plus d'études que moi. Alors, je ne répète pas des fois des phrases pour vexer qui que ce soit. Non, je ne me le permettrai pas. Mais si vous analysez les Saintes Écritures soigneusement, eh bien vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a souvent répété certaines choses. Vous pouvez vérifier. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas, surtout dans les temps que nous vivons actuellement, comme des super anges qui, eux, savent tout. Nous ne savons que peu de choses ou certaines choses spécialisées, mais pas dans l'ensemble. Et nous n'avons pas une mémoire telle que Dieu. Impossible. Nous pouvons parfois oublier des choses, en tout cas c'est mon cas, surtout à mon grand âge. Et donc, il n'est pas du tout une question d'attrister ou de vexer qui que ce soit si on répète une phrase. Non. Oubliez cet aspect-là. Je continue. Qu'est-ce que le casque de l'espérance ? Qu'est-ce que c'est ? Il ne s'agit assurément que de l'espérance vivante du retour de Jésus-Christ. Car aussi longtemps que cette espérance ne vit pas dans notre cœur, une pièce essentielle manque à notre armure. Pourquoi tant de croyants s'arrêtent-ils et pourquoi sont-ils si susceptibles ? Qu'est-ce que nous sommes susceptibles ? Et qu'est-ce que nous sommes si vite choqués ? En se sentant toujours défavorisés ou mis à l'écart. Il nous manque le casque de l'espérance. Imaginez que dans une église de 300 membres, 30 attendent vraiment le Seigneur. Quelle douceur et quelle puissance, quelle sainteté et quelle animation se manifesterait dans cette église, s'il y en a encore davantage. Car Saint Jean dit, quiconque a cette espérance-là, cette espérance en lui, en elle, se purifie comme lui-même est pur. Celui qui n'a pas cette espérance ne se purifie pas. Ceux qui possèdent donc cette espérance ne doivent pas être exhortés à se purifier, car ils se purifient par cette espérance. Ça vaut la peine de méditer là-dessus. Il n'est pas nécessaire de les exhorter à la poursuite du but, au renoncement, à l'humilité. Ils aspirent eux-mêmes à quoi ? À la ressemblance avec l'agneau. C'est-à-dire, ça devrait être ainsi. Ils se purifient de tout ce qui n'est pas semblable à lui selon sa pensée. Aussi longtemps que nous ne possédons pas cette espérance, nous sommes dépourvus de la véritable espérance. Nous savons tous et fort bien qui sont et comment est le témoignage de telle personne. La question suivante est restée pour moi, et cela pendant de longues années, absolument sans réponse. Qu'est-ce que le premier amour? Ma compréhension est celle de bien d'autres avec moi du premier amour. Elle était pourtant fausse. Eh oui, ce premier amour, l'église d'Éphèse le possédait. Elle est louée ou félicitée 10 fois, je dis bien 10 fois, pour ses œuvres, mais il y a ensuite un mais. Ah oui, mais est-il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, non pas perdu, abandonné. Éphèse n'avait pas perdu le premier amour, pas du tout, mais par contre avait abandonné le premier amour. Qu'est-ce que le premier amour? Comme je le dis ou je le discerne aujourd'hui, il ne s'agit que de l'espérance vivante du retour de Jésus-Christ. Je répète, qu'est-ce que le premier amour? Comme je le discerne maintenant, aujourd'hui, il ne s'agit que de l'espérance vivante du retour de Jésus-Christ. C'est ça que nous devons maintenant espérer. Éphèse, la première église, représente l'église des premiers siècles. Elle a commencé à délaisser l'espérance vivante du retour de l'époux divin, et c'est donc ainsi qu'elle a abandonné son premier amour. Chers amis, que dirait-on d'une fiancée? C'est un exemple seulement, hein, d'une fiancée qui attend tout de son fiancé, sauf de le voir lui-même. On lui dirait, mais mon enfant, tu n'es plus en harmonie avec ton fiancé, tu as abandonné ton premier amour. Nous, nous sommes convertis pour servir le Dieu vivant, est vrai, et pour attendre des cieux son Fils bien-aimé. Je répète, nous sommes convertis, sauvés, pour servir. L'armée du salut a le slogan que leur fondateur William Booth a bien écrit en lettres d'or. Sauvés pour servir. C'est drôlement juste, sauver pour servir. Et pour attendre des cieux le Fils bien-aimé Jésus-Christ. Voilà donc le but de notre conversion. Et la récompense d'une telle position est d'être bien entendu sauvé, sauvé de la colère à venir. Je répète, sauvé de la colère à venir. C'est-à-dire de la grande tentation qui va venir sur le monde entier. Lisez un peu attentivement Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Ceux qui seront sauvés portent sur eux ces marques distinctes ou distinctives d'une conversion véritable. Servir et attendre. Servir et attendre. Rien ne s'oppose plus à cette délivrance, sauf que soit complet le nombre de tous ceux qui doivent encore venir et parvenir au salut. Avant que le Seigneur ne puisse venir sur la terre pour édifier son royaume, il doit encore s'accomplir de grandes choses dans le ciel et sur la terre, mais jusqu'à sa venue pour chercher les siens afin de les soustraire à la colère, rien ne le retient plus. Car si maintenant le Seigneur survient, il ne vient pas pour le monde, ni pour le jugement, mais comme il est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 28, il vient pour tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous pouvez, si vous avez Internet, moi je ne possède pas Internet, mais pour ceux qui ont Internet, vous pouvez saper, donc vous pouvez trouver gratuitement, je crois c'est www.bibleexplique.ch. Et là, vous trouverez toute la série expliquée, verset par verset, concernant l'Apocalypse, les choses à venir. Chers amis, nous lisons dans ce même verset, Hébreux 9, verset 28, « Il, Jésus-Christ, apparaîtra une seconde fois sans péché, c'est-à-dire qu'il n'aura rien à faire avec le péché comme lors de sa première venue où il a pris, oui, il a pris tous nos péchés sur lui, ou lors de sa dernière venue où il jugera le péché. Lors de sa deuxième venue, il n'entrera donc pas en relation avec le péché, mais avec tous ceux qui sont glorieux et saints, selon le psaume chapitre 16. Il viendra donc pour les siens, lui l'étoile brillante du matin. Il viendra silencieusement, et cela sans que le monde endormi le remarque. Donc, attention, ne dormons donc point, mais veillons et soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous arrêterons notre étude pour aujourd'hui là, et avant de prier ensemble, je vais vous dire quelques phrases que j'ai reçues dans mon cœur en méditant et priant sur ces études. Et voici donc ce que j'ai reçu pour vous transmettre. La clé de la sanctification. Approchons-nous du Seigneur. Voilà la clé. Le vrai contact avec lui est la panacée à tous nos maux. Souvenez-vous que la vérité a des aspects très divers. Apportez donc un très grand amour et beaucoup de patience dans vos rapports avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Mettre le moi de côté, telle est la clé de la sanctification et du bonheur, et ce n'est qu'avec Jésus-Christ qu'on y arrive. Regardez comme il a vécu et réfléchissez, vivez en sa présence, donnez-lui votre adoration. J'ai dit à Gethsémané, il a dit Jésus-Christ à Gethsémané, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est ce qu'il a dit à Gethsémani. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de coupe d'amertume à boire. Il fut battu de verge, il fut souillé de crachat, et il fut cloué à la croix, mais il a dit à Dieu son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je ne dis pas qu'il n'avait pas fait tout cela. Quand Saint-Pierre, l'apôtre Pierre, son disciple, a voulu le détourner de la croix, il lui a dit « Arrière de moi, Satan !» Et quand ses disciples ont été totalement impuissants à guérir l'enfant possédé du démon, il a déclaré quant à cette sorte de démon, elle ne peut être expulsée, chassée que par la prière et le jeûne. Il ne dit pas, vous vous imaginez qu'il est malade. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit, il ne l'est pas. Quand la Bible déclare, en parlant de Dieu, tu as les yeux trop purs pour voir le mal, cela veut dire que Dieu n'impute pas le mal à son peuple, ne le voit pas voué au mal. Dieu désire voir que le bien. Il désire de voir le bien dans l'homme. Autrement dit, le mal qui est création humaine et non une création divine n'a pas de réalité aux yeux de Dieu. Il ne fait que passer. Un jour, il sera résorbé par le bien. Dans le regard divin, il l'est déjà. Mais n'oubliez pas qu'en apercevant la ville Jérusalem, il a pleuré sur elle. Chers amis, nous allons donc maintenant terminer ensemble par la prière. Et j'aimerais dire quelque chose concernant la prière. Prier, c'est plein de joie, comme un enfant, prendre ce que le Père nous a préparé, car il sait ce dont nous avons besoin. Il le sait avant que nous le lui demandions. Prions. Père céleste, je m'irrite devant mes sentiments d'envie. Cette prière, je voudrais que vous puissiez la faire chacun, chacune, silencieusement ou à haute voix, comme vous voulez, ou la noter après coup, et de la prier avec votre cœur et vos sentiments profonds. Je vais donc répéter. Et vous parlerez donc ces mots plus ou moins de la même manière. Je dis donc les mots lentement. Père céleste, oui, je m'irrite devant mes sentiments d'envie, mais lorsque je vois tout le succès que remportent mes voisins, tout ce qu'ils peuvent se permettre, combien il est apprécié ou combien ils sont appréciés dans leur entourage et admirés de tous, alors la jalousie surgit en moi. Je suis incapable de rien entreprendre contre ces sentiments-là. Au moment où j'essaie de les réprimer, ils surgissent à nouveau. Ou si je te tends ces sentiments d'envie, que ta lumière y pénètre profondément. Et cela, afin que je prenne conscience du désir qui s'y cache. C'est vrai, je désire intensément être aimé partout, connaître toujours le succès, avoir suffisamment d'argent pour vivre. Je te tends toute cette envie. Je reconnais devant toi que ni la reconnaissance des gens, ni la richesse ne peuvent combler mon désir le plus profond. Toi seul peux combler mon désir. Je te tends donc au cœur de mes sentiments d'envie, mon désir, afin que tu ramènes la paix totale dans mon cœur. Et je te demande, dans mes sentiments de convoitise, la grâce de la reconnaissance que je puisse regarder avec gratitude tout ce que tu m'as donné en cadeau. Amen. Et chers amis, à bientôt, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Il y en a encore beaucoup. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse, car il vous aime.